Bien. Donc, je voudrais examiner l'impact des rankings sur l'évolution et la diversité des revues scientifiques et des pratiques disciplinaires. Je vais le faire dans le cas de la géographie. Alors, bon, pourquoi dans le cas de la géographie ? D'abord parce que c'est celui que je connais, ce qui est une bonne raison. Mais peut-être parce que, par son positionnement, certains des constats que je vais faire sont quelque part exacerbés dans la situation de la géographie. Pourquoi exacerbés ? D'abord parce que c'est une discipline qui est très hétérogène, qui est mal positionnée dans les classements disciplinaires, parfois même absente des classements disciplinaires. Je regarde le FNRS, par exemple. Et donc, le résultat, c'est qu'elle subit des évaluations où, très souvent, un grand nombre des évaluateurs ne sont pas des gens de la même discipline, ce qui augmente cette espèce de logique incompétente, les effets de cette logique incompétente dont il avait été question tantôt. Aussi, parce qu'évidemment, la géographie, en particulier la géographie sociale, la géographie humaine, a un très fort ancrage dans les problématiques sociétales locales, et que donc aussi la question de la langue se pose avec plus d'acuité que quand il s'agit de biologie, de mathématiques ou d'autres disciplines. Ce qui évidemment est en Belgique particulièrement délicat pour l'évaluation de la géographie humaine en particulier, dans la mesure où, étant en faculté des sciences, on est confronté évidemment avec des évaluations pour lesquelles les critères des évaluateurs sont des critères plus généralistes. Bien, alors, rapidement, quel est l'état de la publication ou des publications en géographie avant la Seconde Guerre mondiale ou dans les deux décennies, disons, qui suivent la Seconde Guerre mondiale? Quelle est la situation actuelle? J'y viendrai dans un instant. Alors, pour faire court, les publications en géographie avant la Seconde Guerre mondiale relèvent de trois catégories. Vous avez une première catégorie qui sont, je dirais, les revues traditionnelles des sociétés savantes. Sociétés savantes nationales, voire sociétés savantes locales, qui pour la plupart remontent au XIXe siècle et pour quelques très rares d'entre elles, même à la fin du XVIIIe. À côté de ça, vous avez quelques revues généralistes prestigieuses qui ont été créées généralement autour ou après la Première Guerre mondiale et qui sont nées en même temps que l'évolution scientifique de la géographie à partir d'une démarche qui était plutôt une démarche d'inventaire telle qu'elle était pratiquée au XIXe siècle. Alors, ce sont des revues comme les Annales de géographie, Annals of the Association of American Geographers, le Geographical Journal, les Petermanns Geographische Mitteilungen en Allemagne, etc. Et puis, vous voyez apparaître également, entre les deux guerres, voire même immédiatement avant la Première Guerre mondiale, une série de revues qui émanent de laboratoires de renom, qui sont des revues plus spécialisées déjà, mais qui restent encore très générales dans leur thème d'étude, comme la revue de géographie alpine, par exemple, ou Economic Geography, ou le Tijdschrift voor Economische en Sociale Geographie aux Pays-Bas. Voilà la situation telle qu'elle était, disons, jusque dans les années 60. Alors, quelle est la situation actuelle? D'abord, une explosion du nombre de titres. De titres qui relèvent de la géographie, soit de titres où le mot géographie n'apparaît pas, mais où les géographes publient à côté d'autres scientifiques issus d'autres disciplines. Alors, j'ai fait un inventaire il y a 2 ans. J'étais arrivé à 761 titres. L'Union géographique internationale fait un inventaire plus large encore. Ils arrivent à 1310 titres. Dans ces titres, qu'est-ce qu'on peut observer? D'abord, une hégémonie accrue de la publication en anglais. Et de la publication en anglais aux mains de quelques éditeurs internationaux. Hein, quand vous prenez Reuters et Thomson, Elsevier et Springer, vous avez fait déjà très largement le tour des titres en question. Et le résultat, c'est quoi ? Ben, le résultat, c'est évidemment que les revues hollandaises de géographie, les revues publiées aux Pays-Bas, ont un H-index de 27,3. Les revues publiées en France ont un H-index de 4,4. Ça m'étonnerait fort que le rapport de 27 à 4 reflète effectivement la qualité respective des géographies néerlandaises et des géographies françaises. Oui. Ben, vous mesurez l'H-index d'une revue de la même manière que vous mesurez l'H-index d'un auteur dans une revue. Donc, les articles publiés dans cette revue ont cet H-index-là. Vous pouvez, si vous mesurez le H-index d'un auteur, vous allez prendre toutes ses publications où qu'il les ait faites. Quand vous mesurez l'H-index d'une revue, vous faites la même chose pour tous les auteurs qui ont publié dans la revue en question. Et donc, H-index moyen des revues publiées aux Pays-Bas 27,3, en Grande-Bretagne 18,7. C'est plus qu'aux États-Unis, mais Reuters et Thomson, c'est en Grande-Bretagne et c'est pas aux États-Unis. Hein, et vous voyez donc que, évidemment, l'hégémonie de ces publications aux mains de ces grands éditeurs internationaux a un impact direct. Si on prend les revues de géographie parmi les 761 revues que j'ai examinées, qui sont reprises dans le Social Citation Index ou dans le Social Science Index, eh bien, celles qui sont publiées en anglais, 69% sont reprises. Celles qui sont publiées en chinois, 4% sont reprises. Le poids de la Chine qui augmente fait d'ailleurs qu'au niveau des instances internationales, les Chinois sont en train de très sérieusement taper sur la table parce qu'ils considèrent que, évidemment, c'est un rapport qui est totalement disproportionné. Hein, et seulement 12% des revues publiées en français sont reprises dans le Social Citation Index ou le Social Science. Bon, une autre évolution de la situation, c'est que, en particulier aux mains de ces trois ou quelques grandes firmes internationales anglo-saxonnes qui travaillent en anglais, qui publient, vous avez une multiplication de revues thématiques de plus en plus spécialisées. Et dans le titre desquels le mot géographie n'apparaît pas. C'est Transport Studies, Urban Studies, etc. Et le résultat, évidemment, on va le voir un peu plus en détail tantôt, c'est que les pratiques disciplinaires globalisantes ont tendance à s'effacer au profit d'articles très pointus, très technocratiques, si vous voulez, parce qu'ils trouvent plus facilement, évidemment, accès à ce type de revues. À côté de ça, les grandes firmes dont je parlais ont aussi pris le contrôle de certaines revues historiques de sociétés de géographie, mais celles qui les intéressent sont évidemment celles qui publient en anglais, c'est-à-dire soit des sociétés britanniques, soit éventuellement des sociétés comme la société néerlandaise ou la société norvégienne de géographie qui publient évidemment en anglais. Le résultat, c'est que quand on prend les revues des sociétés de géographie, parmi celles qui ont été reprises par les éditeurs commerciaux, vous avez un H-index de 15,9 en moyenne. Celles qui n'ont pas été reprises, en particulier les sociétés de pays non anglo-saxons ou qui ne pratiquent pas l'anglais aussi systématiquement, elles sont à un H-index moyen de 6,1. Là non plus, je ne pense pas que ça traduise une différence de qualité entre les publications issues de ces différents pays. Alors, les implications épistémologiques et les implications sociales. D'abord, évidemment, une première constatation, et encore une fois, évidemment, c'est plus important en sciences sociales que ça ne peut l'être en sciences exactes, c'est la diffusion d'une vision épistémologique qui est très standardisée, très hégémonique, et de concepts et de manières d'écrire un article, d'ailleurs, qui sont typiques d'une pensée anglo-saxonne. Deuxième impact, c'est un recul d'une vision holistique de la géographie, c'est-à-dire d'une vision qui intègre les différents aspects de la dynamique sociale pour en examiner les impacts dans l'espace. Parce qu'évidemment, cette vision holistique, elle ne trouve en particulier pas sa place dans les revues thématiques très pointues. Or, ces revues thématiques très pointues donnent des H-index plus élevés que les revues généralistes. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, elles sont aussi lues par des gens d'autres disciplines. Et résultat, pour un jeune chercheur, plus on est pointu et moins on a une vision globale de la géographie, plus on a des chances d'avoir un H-index élevé. J'ai fait quelques exercices, là, quelques calculs. Si on prend l'H-index moyen des revues généralistes de géographie, on est à 6,4. Si vous prenez celles qui s'intitulent d'une manière ou d'une autre Urban Studies, vous êtes à 14,7. Et si vous êtes dans Global Change, vous êtes à 17,7. Évidemment, les médecins vont trouver que des H-index pareils sont totalement ridicules. Mais encore une fois, on a vu tantôt que les H-index de sciences sociales sont toujours très nettement plus bas que ceux d'autres disciplines. Alors, évidemment, on connaît les impacts aussi sur les pratiques académiques. On saucissonne des articles pour en avoir trois plutôt qu'un dans trois revues différentes, ce qui, évidemment, donne plus de chances d'augmenter son... Ou bien alors, on redit la même chose en changeant trois paragraphes pour avoir deux publications. Alors, c'est évidemment particulièrement vrai pour les jeunes chercheurs parce qu'ils doivent se construire un curriculum, mais c'est aussi vrai pour les chercheurs plus âgés parce qu'ils doivent assurer le financement de leur labo et ils pratiquent dès lors le même genre de pratique. Une autre conséquence, c'est la dévalorisation des livres par rapport aux revues. Or, en sciences sociales en particulier, je pense qu'on exprime une pensée plus globale et une pensée plus riche dans un livre qui a aussi une durée de vie plus longue, éventuellement, que dans un article. Mais si vous publiez dans un livre, dans certains cas, ça ne compte pas. Alors que si vous publiez un article, ça compte. Alors, une autre conséquence, c'est la multiplication dans les articles de citations de quelques grands noms, quand ce n'est pas d'ailleurs les référis qui, plus ou moins sous la pression des éditeurs, vous demandent d'ajouter les grands noms en question. Si vous faites de la géographie urbaine et que vous ne parvenez pas à placer quelque part une référence à Sassen, à Castells, à Florida ou à Taylor, vous êtes un indigne. Et c'est fait de manière extraordinairement dogmatique. C'est dans l'introduction, on dit, on va étudier ceci, entre parenthèses, Sassen telle année. À la limite, on n'a pas lu Sassen telle année, ça n'a aucune importance. C'est véritablement du dogme. Le grand homme a dit, ou on croit que le grand homme, non la grande femme en l'occurrence, pour Sassen, a dit, ou on croit que la grande femme a dit, et donc on met ça. Ce n'est même pas un usage de la référence de la même manière qu'en sciences exactes. Parce qu'en sciences exactes, quand on cite la référence, généralement, c'est parce qu'un tel a déjà fait une expérience qui dit la même chose, ou qui dit quelque chose qu'on va contredire éventuellement. Alors que ici, c'est véritablement, on cite ça comme d'autres jadis citaient Mao Tse-tung ou citaient Lénine ou citaient Marx parce que c'était obligatoire de le citer dans l'article. C'est une preuve de sérieux scientifique, c'est une espèce d'incantation et rien d'autre. Alors, il y a un effet encore plus pervers à ça. C'est que ces espèces de renvois obligés à ces vedettes de la littérature internationale entraînent à la production d'articles qui deviennent des espèces de justificatifs à certaines pratiques des autorités politiques, hein, qui vont mener telle politique parce que les bureaux d'études internationaux disent que c'est ça, et d'ailleurs, la preuve, c'est que Florida l'a dit, hein, et que Florida a dit que les villes devaient être créatives. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est que toutes les villes vont se mesurer, hein, on va faire un autre benchmarking, vont se mesurer, hein, à l'aune de leur créativité, d'abord mesurer, on ne sait pas très bien comment, et puis d'autre part, sans s'occuper, par exemple, des conséquences sociales que les politiques de la ville créative vont pouvoir avoir, ou les politiques de gentrification, ou les politiques de n'importe quoi vont pouvoir avoir sur les structures sociales. Donc, en études urbaines, par exemple, mais je pourrais prendre toute une série d'autres sous-disciplines, si vous voulez, ça contribue à une espèce de généralisation de recettes néolibérales appliquées au développement urbain, hein, et qui sont considérées comme de bon sens, et d'autant plus considérées comme de bon sens, puisque tel auteur l'a dit, quitte à ce que cet auteur-là, on ne l'ait jamais lu, hein, mais on le cite parce qu'il faut le citer. Et une dernière conséquence, c'est, je dirais, pour satisfaire aux exigences des référis ou à ce qu'on suppose être les exigences des référis, on va se soumettre à une espèce de pratique aseptisée de la géographie, hein, par exemple aux pratiques de la géographie anglo-saxonne qui est une géographie en général, je dirais, moins dialectique que la géographie française, mais si on écrit un article comme on l'écrirait dans un article en français, ça ne passera pas dans une revue anglo-saxonne. Ou bien alors, on se soumet aux manies de coterie scientifique. J'ai un collègue qui a eu récemment un article qui avait été référé positivement par les trois référés, et puis l'éditeur a dit « Ah non, on ne publie pas parce que c'est un sujet qui n'est pas à la mode. Hein » Donc les trois référés avaient dit oui, hein, sans remarque pratiquement. Vous voyez où on peut en arriver. Donc évidemment, c'est une espèce de lissage de la production scientifique qui en résulte. Hein, il faut être conforme, soit à la tendance des éditeurs de la revue, soit à des effets de mode. Hein, on connaît la boutade selon laquelle Einstein n'aurait jamais été publié dans une revue de physique selon les critères actuels et qu'il n'aurait pas été retenu par aucune université parce que son impact factor était insuffisant. Alors, pour terminer, quelques mots sur les attitudes et sur les réactions. Alors, tout ce que j'ai dit appliqué à la Belgique, je dirais que c'est plus vrai dans la Belgique néerlandophone que dans la Belgique francophone, qui est plus sensible aux pratiques anglo-saxonnes, où parfois on a des dérives extraordinaires. On me citait le cas des Pays-Bas, où en psychologie, si je me rappelle bien, non seulement on ne regarde que les articles qui ont été publiés dans les revues avec Impact Factor, mais même seulement dans celles qui sont dans les 20 premiers Impact Factor de la discipline. Bon, oui. Alors, du côté français, au contraire, il y a une réaction très forte. Hein. Il y a une réaction qui est évidemment une réaction politique portée par le gouvernement français à l'hégémonie anglo-saxonne, qui est organisée en particulier par le CNRS. Et là, il faut évidemment souligner création par avec l'aide du CNRS du site revue.org qui met en ligne gratuitement des revues électroniques, hein, et qui sont des revues très facilement accessibles. Et qui est une réaction qui a diffusé vers les pays latins. Si vous regardez l'Espagne, le Portugal, la Roumanie, l'Amérique latine, vous avez, c'est raté. Bon, peu importe, mais je peux vous donner simplement deux chiffres. Hein, voilà, 78% des revues latino-américaines de géographie recensées sont librement en ligne, 60% des revues françaises, 64% des revues espagnoles et portugaises, et à ça vous opposez 0,5% des revues britanniques, 2% des revues néerlandaises, 8% des revues allemandes, c'est-à-dire les trois pays où sont implantées les trois grandes firmes que j'ai citées tantôt. Et donc, de ce point de vue-là, ben, encore une fois, je remercie au passage le FNRS pour son appui à Belgéo, en l'occurrence, qui est la revue Belgéographie, qui a bénéficié de ce site de revue.org. Alors, c'est le passage au libre accès en ligne n'assure pas nécessairement un H-index plus élevé. Pourquoi ? D'abord parce qu'en général, ces revues ne sont pas des revues anglophones ou majoritairement anglophones. Elles le sont parfois partiellement. Mais l'utilité sociale, scientifique et sociale, ça, ce n'est pas mesuré par les H-index. Alors, je prends un seul exemple, Cybergeo. Cybergeo, c'est la revue française de géographie la plus lue et sans doute une des meilleures, effectivement. Plus de 100 000 visites mensuelles actuellement. Le H-index n'est que de 9. Je suis convaincu qu'il y a plein de revues avec des H-index beaucoup plus élevés qui sont lues par quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, parfois par les seuls référés pour certains articles. Donc, si je prends Belgéo, dont je parlais tantôt, on est actuellement à peu près à 17 000 visites mensuelles. Il est évident que quand on tirait sur papier à 350 exemplaires, ça n'avait aucune mesure en termes de diffusion. Et puis, le H-index ne s'occupe pas non plus de l'utilité sociale des revues. Et je voudrais prendre le cas de Brussels Studies. Brussels Studies est une revue scientifique, référée, en ligne, gratuite, sur les problèmes bruxellois. Quand un article paraît dans Brussels Studies, le lendemain, les journalistes en font une page entière, ce qui veut dire qu'il y a une utilité sociale et politique bien évidente. Brussels Studies est sans doute plus parcouru ou plus lu que la plupart des revues scientifiques, mais Brussels Studies, même si les articles sont référés, n'est pas évidemment coté dans le Web of Science ou dans Scopus. Donc l'utilité sociale de la publication scientifique, évidemment, n'est pas questionnée. Alors, ces questions sont maintenant débattues. À l'Académie, en tout cas la classe des lettres, on y est sensible et on en parle. Bon, il y a des mouvements de réaction parmi les scientifiques. Je terminerai trois mots simplement, ou trois phrases, en regrettant quand même un petit peu la position des universités. La position des universités me semble parfois un peu schizophrénique. C'est-à-dire que d'un côté, on dit il faut une troisième mission à l'université. Alors, la troisième mission se traduit par exemple par l'implication de l'ULB, de la VUB, de Saint-Louis dans la mise en place du Brussels Studies Institute, auquel est lié Brussels Studies, dont je faisais allusion tantôt. Bon, c'est très bien. Les universités disent aussi vouloir mettre en avant les qualités pédagogiques. Mais après, dans les pratiques effectives des commissions de sélection, eh bien, les classements dans les H-index reprennent quand même très souvent une place extrêmement importante, sinon hégémonique. Et à un point tel que souvent on s'occupe plus du niveau du H-index des personnes qu'on examine que de l'adéquation de leur publication au profil et aux nécessités académiques que le candidat devra effectivement exercée par la suite. Voilà, je vous remercie.